L'affirmation du Daily Telegraph, selon laquelle l'Iran et la Russie sont parvenus à un accord bilatéral et confidentiel sur le Conseil de sécurité de l'ONU, et les sanctions est fausse, et c'est une fabrique de mensonges. Le Daily Telegraph avait prétendu que l'Iran et la Russie étaient parvenus à un accord bilatéral et confidentiel sur le Conseil de sécurité de l'ONU et les sanctions. Ce rapport est totalement infondé et révèle de la guerre des nerfs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dans une interview exclusive à la chaîne libanaise Al-Mayadeen que les relations avec l'Arabie saoudite ne sont pas bonnes, mais nous n'en sommes pas responsables. Et nous avons annoncé que nous étions prêts pour le cinquième cycle de dialogue avec Riyad. Dans cette interview télévisée, Amir Abdollahian a ajouté « Il y a des problèmes et des défis auxquels sont confrontées les relations irano-saoudiennes et nous travaillons à plein régime pour garder les portes du dialogue ouvertes entre les deux pays. » Tout en notant que les relations ont été coupées par l'Arabie saoudite, Amir Abdollahian a affirmé que l'Iran entretient des relations amicales avec de nombreux pays arabes, dont le Koweït, les Émirats arabes unis, ajoutant que l'Arabie saoudite a été le premier pays à couper les liens avec l'Iran. « Nous avons quelques réserves sur la politique saoudienne, mais nous n'avons pas coupé les ponts avec ce pays », a-t-il déclaré. Certaines actions saoudiennes contradictoires et inappropriées, dont l'exécution de 81 personnes, affectent nos relations avec ce pays, a poursuivi le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a souligné que les Saoudiens n'attendent pas de bonnes relations avec nous, déclarant « Nous n'oublierons pas le martyr de 460 pèlerins iraniens dans l'accident de Mina ». Concernant les positions iraniennes vis-à-vis de la guerre au Yémen, Amir Abdollahian a déclaré « La défense par les yéménites de leur souveraineté est une affaire privée pour eux, mais nous saluons la cessation de la guerre et la levée du siège de ce pays, et nous n'hésiterons pas à cet égard. » Il a ajouté « Associer tout ce qui se passe au Yémen à l'Iran n'est pas correct. » Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous avons dit aux Saoudiens que la question du Yémen est liée au peuple de ce pays et que la décision leur appartient. » D'autre part, Amir Abdollahian a indiqué que la politique de la République islamique d'Iran est de renforcer les relations avec l'Égypte de manière équilibrée. Il a ajouté « Nous n'oublierons pas les positions de l'Égypte sur la question syrienne, mais en même temps, il existe des dénominateurs communs avec l'Égypte sur lesquels les relations peuvent être construites. » Il a évoqué la position de l'Égypte dans le monde arabe et a déclaré « L'Égypte possède une position dans le monde arabe qui la qualifie pour jouer un rôle influent sur ceux qui l'entourent. » Le ministre iranien des Affaires étrangères, arrivé jeudi à Beyrouth, a rencontré lors de deux réunions séparées le secrétaire général du mouvement libanais Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, et le président libanais Michel Aoun. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré vendredi le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, et a discuté avec lui des questions économiques et des derniers développements régionaux et internationaux. En plus, Hossein Amir Abdollahian a rencontré vendredi matin le secrétaire général du mouvement libanais Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, à Beyrouth. L'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Mohammad Jalal Firouznia, a également assisté à la réunion où les deux parties ont discuté des derniers développements politiques au Liban et dans la région. Au Liban, Hossein Amir Abdollahian a rencontré de hauts responsables libanais dont le premier ministre Najib Mikati et le ministre libanais des Affaires étrangères Abdullah Bouhabib. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartarabonchi, a expliqué la raison de l'abstention de l'Iran lors du vote sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'Ukraine. S'adressant jeudi à une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, Majid Tartarabonchi a souligné la position de principe de l'Iran concernant la nécessité d'un règlement pacifique des différends en Ukraine conformément au droit international. L'envoyé a également expliqué les raisons de la décision de l'Iran de s'abstenir sur une résolution de l'AGNU exigeant l'accès à l'aide et la protection des civils en Ukraine, affirmant que la résolution manquait de mécanismes réalistes pour traiter les aspects humanitaires du conflit. La République islamique d'Iran est profondément préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire à l'intérieur et autour de l'Ukraine, a déclaré Tartarabonchi. L'Iran réitère sa position de principe concernant la nécessité d'un règlement pacifique des différends conformément au droit international et souligne la nécessité du plein respect par toutes les parties des dispositions bien établies de la Charte des Nations Unies du droit international, y compris le droit international humanitaire, a-t-il ajouté. L'ambassadeur d'Iran a en outre souligné que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États doivent être pleinement respectées et que la sûreté et la sécurité de tous les civils et infrastructures civiles doivent être garanties. L'Iran réitère son appel à la cessation urgente des hostilités et à la désescalade des tensions dans le conflit actuel et encourage toutes les parties à poursuivre leurs préoccupations par le dialogue, a-t-il ajouté. Tartaravanchi a déclaré que l'Iran estime que le texte actuel de la résolution soumise à l'Assemblée générale contient des termes qui vont au-delà de la portée de la situation humanitaire sur le terrain et manque de mécanismes réalistes pour traiter les aspects humanitaires du conflit. La République islamique d'Iran souligne que la nature humanitaire de l'assistance doit être toujours respectée et que la fourniture de l'assistance humanitaire ne doit être guidée que par les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité, a-t-il souligné. L'Iran exhorte toutes les parties à coopérer pour faire avancer la réponse humanitaire à la situation et, à cet égard, souligne la nécessité de fournir efficacement une aide humanitaire aux personnes dans le besoin, y compris les réfugiés, a déclaré l'envoyé. Nous appelons à la facilitation immédiate du transfert sûr, volontaire et digne de tous les civils réfugiés et déplacés internes des zones touchées par le conflit, a-t-il déclaré, ajoutant « Mon gouvernement soutient les négociations en cours entre les parties et réitère son appel à une résolution pacifique urgente du conflit conformément au droit international ». Tartaravanchi a en outre réitéré que les questions humanitaires occupent une place prépondérante dans la politique étrangère de l'Iran. Nous exprimons une fois de plus notre volonté de coopérer, de coordonner et de faciliter la fourniture d'une aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans le conflit actuel. Et dans ce contexte, nous saluons les efforts continus du secrétaire général et des agences des Nations Unies pour fournir une aide humanitaire ainsi qu'une assistance et une protection aux réfugiés, a conclu l'envoyé iranien. Près des trois quarts de l'Assemblée générale de l'ONU ont voté jeudi pour exiger l'accès à l'aide et la protection des civils en Ukraine et ont critiqué la Russie pour avoir créé une situation humanitaire catastrophique à Moscou. La résolution qui a été rédigée par l'Ukraine et ses alliés a reçu 140 voix pour et 5 voix contre la Russie, la Syrie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Biélorussie, tandis que 38 pays, dont l'Iran, se sont abstenus. Les violations répétées par le régime israélien de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, les attaques israéliennes contre des civils et des infrastructures civiles en Syrie le 7 mars 2022 continuent des violations manifestes du droit international. Nous appelons le Conseil de sécurité à tenir ce régime responsable de tels actes d'agression et de malveillance, ainsi que de ces menaces flagrantes d'utiliser la force contre d'autres pays de la région, mettant en danger la paix et la sécurité régionale. La situation humanitaire en Syrie reste alarmante. L'ONU estime que 14,6 millions de Syriens ont besoin d'aide humanitaire. Cela représente une augmentation de 9% par rapport à 2021. La pandémie de COVID-19 a exacerbé la situation humanitaire déjà fragile du pays. Compte tenu de cette situation humanitaire désastreuse, où des parties importantes de l'infrastructure civile de la Syrie ont été détruites, l'imposition de mesures coercitives unilatérales au peuple syrien a eu des conséquences désastreuses sur tous les aspects de sa vie et va à l'encontre de certains aspects de la résolution 2585 du Conseil de sécurité relative aux projets de relèvement rapide qui sont essentiels pour renforcer la résilience des Syriens et permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles. Ces mesures ont également eu un impact sur les efforts des organisations humanitaires internationales et nationales en Syrie. La crise syrienne ne peut être résolue sans mettre fin à l'occupation et dérancier les menaces terroristes. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie ne peuvent être compromises au nom de la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, toutes les forces étrangères occupantes et non invitées, y compris celles des États-Unis, doivent quitter le pays immédiatement et sans aucune condition, a conclu l'envoyé iranien. Des représentants de l'Iran et de la Russie se sont rencontrés jeudi à Vienne pour discuter des questions relatives au plan d'action global conjoint, officieusement connu sous le nom d'accord nucléaire de 2015. Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré jeudi dans un tweet qu'il avait rencontré le représentant permanent adjoint de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Mohammad Reza Rahebi. Le huitième cycle de pourparlers sur la levée des sanctions contre l'Iran à Vienne, qui a débuté le 8 février entre l'Iran et le P4+1, Chine, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne, est entré en période de suspension pour la énième fois depuis le vendredi 11 mars. Le directeur général du Bureau international de transit et de transport de l'Organisation iranienne des routes et des transports, Javed Hedayati, a déclaré « Le volume de transit de marchandises à travers le territoire de la République islamique d'Iran l'année dernière a franchi avec un bond extraordinaire les barres de 3,9 millions de tonnes et de 436 000 trafics de transit ». Selon un rapport de l'IRNA publié mercredi 23 mars 2022 par l'Organisation des routes et des transports Javed Hedayati a ajouté, ce quota a été atteint dans la situation post-Covid, malgré l'application continue des restrictions mondiales et régionales relatives en raison de la pandémie du coronavirus, de sorte que nous assistons toujours à la fermeture des frontières de Turkménistan pour le transit des camions vers les pays d'Asie centrale. De même, depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir, le transit des marchandises vers le pays a considérablement diminué. Le directeur général du Bureau international de transit et de transport de l'Organisation des routes et des transports d'Iran a déclaré, malgré les conditions ci-dessus, la réalisation d'une croissance record de 98% du trafic de camions en transit est très précieuse et montre les talents inhérent et opérationnel, unique des responsables concernés en Iran. En l'absence des conditions restrictives ci-dessus, le record de transit de marchandises en provenance d'Iran au cours des dernières décennies serait définitivement battu en 1400 l'année dernière. Hedayati a poursuivi de plus en mars 2022 dans le domaine des camions transportant des marchandises en transit, atteignant le nombre de 43 000 unités. Un nouveau nombre a été enregistré pour le trafic de camions par rapport aux années précédentes. Ce alors que le trafic de transit moyen l'an dernier était de 33 650 unités par mois. S'est-il félicité ?